Mais à Marseille, le socialiste Benoît Payan repart seul dans la course à la mairie face au Rassemblement National. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Restez à l'écoute dans quelques instants.
Radio G, Radio G, Radio G, 101.5 FM.
Savourez nos différences.
18h10, 19h, c'est Topette, la quotidienne de Radio G, présentée par Pierre Benoît.
Le retour du Grand Manitou. Je suis très heureux de vous retrouver après cette petite semaine de pause pour ma part, pas pour vous, puisque Sidonie vous a accompagné tout au long de la semaine dernière. Bonsoir Sidonie.
Bonsoir, bonsoir Pierre Benoît, ça faisait longtemps.
Bah oui, ça faisait longtemps, j'ai l'impression que ça faisait au moins une semaine, tu vois.
Ah bon?
Bah oui, ça faisait une semaine, ça tombe bien. Comment ça s'est passé avec les invités de la semaine précédente, les agitations, les actualités culturelles, locales pour toi?
Bah ça s'est très bien passé, il y a pas mal de choses à voir en ce moment. Donc n'hésitez pas à aller écouter les podcasts de la semaine dernière si vous voulez, pour avoir aussi un peu une voix qui change de Pierre Benoît, on peut dire aussi. Mais oui, du coup ça s'est très bien passé, un peu stressé, j'avoue, c'était la première fois que je gérais tout, mais sinon tout s'est bien passé.
Bon, en tout cas, ce sera, même si c'est très intéressant, ce sera pas le sujet de la soirée, puisque nous avons encore des invités. Le planning reste bien chargé ce soir dans Topette, puisque nous sommes, est-ce que tu te rappelles du festival sur le fil, toi, Sidonie? On les a reçus une partie.
Oui, le festival d'improvisation algérien, si je dis pas. Non, pas algérien. Je parle plus, c'est bon.
Ligérien, du rapport à la Loire, c'est un peu plus au nord que la Méditerranée. Bon, en tout cas, oui, effectivement, il est temps que tu te reposes après cette semaine incroyable que t'as passée à l'animation de Topette. Tu restes avec nous si tu veux, Sidonie, au cours de cette émission. On aura donc Élise et Manu pour nous parler. Élise Verchère de la compagnie La Belle Chute et Manu Landais des Expressos pour nous parler. C'est les deux compagnies qui sont organisatrices, co-organisatrices du festival Sur le Fil, du 27 au 29 mars prochain. Et au cours de cette émission, nous avons aussi Mathieu. Bonsoir Mathieu, pour Let's Game.
Bonsoir, oui, exactement, oui.
On a fait beaucoup de jeux ces derniers temps avec toi. On fait quoi ce soir?
On va improviser, on va dire. Tiens, on est dans l'impro aussi, on va y jouer un peu.
Eh ben attention, parce qu'il y a deux professionnels qui vont te regarder. Let's Game, la chronique jeux vidéo autour de 18h30. Et on aura aussi Tonton Albert en fin d'émission. Topette, c'est parti ce soir. Tout simplement pour une nouvelle semaine.
18h10, 19h, Topette, avec Pierre Benoît.
Et avant tout ça, on laisse donc Sidonie se reposer. Pas de flash pour elle ce soir. C'est avec Astrid qu'on fait un point sur les actus locales à Angers dans le département.
J'ai l'info. L'actualité à Angers et dans le département de Maine-et-Loire sur Radio G.
C'est décidé, à Angers, il y aura un second tour aux élections municipales. Le maire sortant, Christophe Béchu, en poste depuis 2014, est arrivé largement en tête du premier tour avec 49,48% des voix. Mais ce score ne lui permet pas d'être élu dès le premier tour, contrairement à 2020 où il avait remporté l'élection avec 57% des suffrages. Il affrontera donc au second tour Romain Laveau, candidat de l'Union de la Gauche et des Écologistes, qui a recueilli 28,71% des voix. Derrière eux, Achraf Assaidi, soutenu par la France Insoumise, obtient 8,2% des suffrages, un score insuffisant pour accéder au second tour qui nécessite au moins 10%. Même situation pour la candidate du Rassemblement National qui obtient 7,92% des voix. Le second tour de ces municipales se tiendra donc dimanche, 22 mars. Dans le reste de l'actualité, le procès du triple meurtre de l'Esplanade Cœur de Maine à Angers s'est ouvert vendredi 13 mars devant la cour d'assises de Maine-et-Loire. L'accusé, un ancien réfugié soudanais de 36 ans, est jugé pour 3 meurtres, 3 tentatives de meurtre et 2 agressions sexuelles. Il encourt la réclusion criminelle à perpétuité. Les faits remontent à la nuit du 15 au 16 juillet 2022. L'homme, fortement alcoolisé, avait provoqué une altercation après avoir agressé sexuellement des jeunes femmes. personnes. Une bagarre éclate, puis il quitte les lieux avant de revenir environ une heure plus tard avec un couteau de 20 cm. Trois jeunes hommes âgés de 16, 18 et 20 ans sont tués et trois autres blessés. Lors de cette première journée d'audience, les débats se sont surtout concentrés sur la personnalité de l'accusé, son parcours migratoire et ses problèmes d'alcool. Ce procès avait déjà été ouvert en octobre dernier, mais avait été renvoyé à la suite d'une erreur matérielle dans un document transmis aux parties à la veille du verdict. Le procès se poursuit cette semaine et doit durer jusqu'au vendredi 20 mars. Enfin, côté hockey sur glace, les playoffs ont débuté vendredi 13 mars en Ligue Magnus. À Angers, les Ducs affrontaient ce week-end les Aigles de Nice en quart de finale. Les Angevins, 3e de la saison régulière, partaient avec un léger avantage face aux Niçois classés 6e. Le premier match de la série a été remporté vendredi par Angers sur le score serré de 3 buts à 2. Les Ducs ont ensuite confirmé samedi lors de la deuxième manche en s'imposant 2 à 0. Longtemps accrochés, ils avaient finalement fait la différence dans le troisième tiers-temps grâce à des buts d'Olivier Archambault et de Cody Donaghey. Avec ses deux victoires à domicile, Angers mène désormais la série 2 matchs à 0 et se rapproche d'une qualification en demi-finale. La suite de la série se jouera cette semaine à Nice avec les 3e et 4e matchs prévus mardi et mercredi.
J'ai l'info sur Radio G.
Merci beaucoup Astrid, on retrouve ta voix pour le Flash Info dans 2 semaines. Et sans transition aucune, direction maintenant le Maghreb.
L'invité de Topette sur Radio G.
Ou presque, hein. Non, on va plutôt rester dans la région. Le festival sur le fil FIL, Festival d'improvisation ligérien. En plus, hein, c'est ça, on est avec nos deux invités ce soir, Manu Landais et Élise Vercher. Bonsoir Élise.
Bonsoir.
Pour représenter la compagnie La Belle Chute, qui co-organise avec Les Expressos le festival. Donc bonsoir Manu.
Bonsoir Pierre Benoît.
De retour, comme tu disais tout à l'heure, hein, tu as planté ta tente dans le studio.
Elle habite ici. Hein.
Voilà, enfin, peut-être dans deux semaines le retour de Manu au micro. Mais en attendant, on va bien sûr reparler du festival sur le fil. On en avait parlé il y a quelques jours maintenant, 2 semaines à peu près, avec le TCB, le Théâtre du Champ de Bataille. Parce que ça se passe au Théâtre du Champ de Bataille, dans la Doutre, du 27 mars au 29 mars. C'est tout un gros week-end, on va dire. Alors au programme, évidemment, des représentations, de l'improvisation, mais aussi des stages, des ateliers qui sont possibles, me semble-t-il, ce que j'en avais compris en tout cas. Peut-être avant de commencer les festivités, de parler du festival, on pourrait redonner du cadre sur ce qu'est l'improvisation. Élise, on ne t'a jamais entendu encore au micro de Topette, donc ce sera un honneur de pouvoir t'entendre nous expliquer un petit peu ce qu'on entend par improvisation, juste. On sait qu'il y a Charles qui vient tous les deux mardis.
Et qui vous en dit quand même pas mal de choses, normalement, sur l'impro théâtrale.
On est un petit peu initié, mais c'est vrai que si on peut avoir un petit peu de contexte, parce qu'on sait qu'il y a le match d'impro, le catch d'impro, l'improvisation, le théâtre qui peut être écrit aussi, improvisé. Enfin, on a tout un tas de disciplines, donc on aimerait en savoir davantage, Élise.
Eh ben, je vais essayer de raconter des choses intéressantes et intelligentes. L'improvisation théâtrale, eh ben, comme son nom l'indique, c'est du théâtre. Et la seule différence avec le théâtre traditionnel, c'est-à-dire celui à texte qu'on a l'habitude de voir, c'est juste que nous, on arrive sur scène et qu'on ne sait pas exactement ce qu'on va jouer et qu'on n'a pas de texte écrit. Après, c'est comme tout, même comme le théâtre ou tous les types de spectacles, bah, y a de l'improvisation. T'as parlé des matchs d'impro, t'as parlé des catchs d'impro. Il y a aussi des formats longs, des pièces de théâtre improvisées. Il y a des spectacles avec des thèmes particuliers, des plus ou moins légers, humoristiques, émouvants. Voilà, on essaye de se diversifier. Et voilà. Et je sais pas si on peut faire le tour de l'impro en une minute, mais en tout cas, c'est ce que je peux en dire là comme ça.
Est-ce que Manu, il y aurait des précisions à apporter à cette définition que propose Élise?
Élise est parfaite la plupart du temps, donc c'est compliqué d'ajouter des choses.
Elle m'a tout appris.
Juste que effectivement on improvise les dialogues, mais également la mise en scène, les décors, etc. Mais que parfois on anticipe les décors, c'est-à-dire que on peut préparer certaines choses et garder juste l'histoire à improviser. C'est très très varié, très divers.
Finalement, tout est improvisation. Il s'agit juste de déplacer plus ou moins le curseur. On peut être à très bas avec très très peu d'éléments préparés, et puis des fois on peut jusqu'à quelque chose de très écrit, mais finalement avec une part d'improvisation, parce que le théâtre est toujours vivant finalement.
Oui. Et puis même les parties très écrites, finalement, ce qu'on a décrit, alors parfois c'est des canevas, des espèces de trames où on sait à peu près où on va, mais même ça, on garde de toute façon toujours une une part et de lâcher prise et d'écriture de l'instant en lien avec le public, avec les partenaires, avec voilà tout ce qui va se passer et qu'on n'avait pas forcément anticipé. Donc oui, même si on le travaille avant, même si on répète avant, ça reste de l'impro.
C'est un théâtre réactif, donc on réagit à ce qui se passe en live.
Et justement, on improvise un tout petit peu, c'était pas prévu, mais comme Astrid, elle est encore là, je vais, si tu veux bien, t'emparer d'un des deux micros pour te questionner par rapport à l'improvisation. Je sais pas si tu vois un petit peu de théâtre, toi, en dehors des cours, ou si tu en fais, même avec l'université.
Oula, alors non, je fais pas de théâtre. J'ai vu une seule fois dans ma vie une pièce de théâtre. Ok, et c'était bien, mais franchement, c'est impressionnant l'improvisation, parce que c'est pas toujours facile de trouver les bons mots, ou d'avoir, ça dépend du sujet, mais oui, c'est quand même quelque chose d'assez impressionnant de réussir à sortir un texte, à suivre une trame avec seulement quelques idées.
Et c'est une bonne remarque justement, Astrid, merci, parce que est-ce que ça veut dire que c'est plus dur le théâtre d'impro que le théâtre formel, ou pas, sans vouloir vous mettre en compétition ou en bisbille par rapport à vos collègues théâtreux?
C'est pas la même chose.
Exactement. C'est pas la même chose.
Il y a pas vraiment de compétition, parce que finalement on fait un peu les deux, nous, dans nos compagnies. On est amené aussi à faire du théâtre à texte, donc ça va, on n'est pas dans un camp face à l'autre. Mais ouais, c'est différent. Alors, je sais pas si c'est plus dur, moins dur. Je pense qu'on n'est pas sur ce registre-là, mais c'est pas le même stress, ou c'est pas la même énergie, c'est pas les mêmes compétences qui sont à l'œuvre quand on est sur scène.
C'est pas la même peur. Hein. Avant une pièce de théâtre écrite, on a la peur du trou. Avant une pièce de théâtre improvisée, on a la peur de tout. C'est-à-dire, on a peur de n'avoir aucune idée, ni dans les dialogues, ni dans le personnage, ni dans la mise en scène.
Oui, donc finalement, il y a sa dose de stress dans les deux cas. Oh, oui. C'est juste différent, comme tu disais tout à l'heure, Élise. Si on parle du festival Sur le Fil, donc maintenant c'est une proposition inédite, me semble-t-il. Hein,
dans le département.
Qu'est-ce qui va être proposé? Par quelle fenêtre, quelle porte on entre dans l'improvisation pour faire des propositions aux différents publics qui viendront, et comment on les implique aussi, Manu?
Eh bien, il y a 7 spectacles différents sur les 3 jours, du vendredi soir au dimanche après-midi. Donc, il y en a pour tous les goûts, puisqu'on va improviser de manière classique, proposée par notre invitée Amel Amzian, qui vient de Paris. On va improviser de manière cinématographique, proposée par notre autre invitée, Aurélia Siano, qui nous vient du Pays Basque. Et puis, on va improviser à la manière de La Belle Chute, qui rapporte un de ses spectacles phares, et dans lequel on va et tous être impliqués. Les expressions, on ramène le grand duo, qui pour le coup est une parodie de match d'improvisation. Donc, et on a le spectacle familial qui avait été co-créé par La Belle Chute et les expressions le dimanche en fin de matinée. Donc vraiment, si vous êtes un enfant, un adulte, un vieux, tout ce que vous voulez, venez voir. Il y en a pour tous les goûts, autant dans l'émotion que dans l'humour, que dans la littérature, que dans la culture, tout ça, tout ça.
Une proposition qui vous avez piqué des idées à droite à gauche, vous avez laissé votre créativité s'exprimer. Comment vous avez travaillé pour co-construire ce festival, Élise?
Alors on n'a pas fini, parce qu'en fait il y a ce qu'on a prévu, et puis il y a ce qui va se passer la semaine prochaine pendant nos répétitions.
On improvise aussi dans le festival.
Exactement.
C'est ça?
Non, alors on s'est dit que quand même, si on voulait que les gens viennent nous voir, il fallait qu'on leur dise un peu plus sur ce qu'on allait proposer. Donc on a un programme, mais qu'on va bosser finalement la semaine prochaine pendant 4 jours. Pour essayer d'être réaliste, l'idée, ça a été justement que chacune de nos compagnies apporte des spectacles qu'on a l'habitude de jouer, et qu'on les retravaille, qu'on les modifie, qu'on les adapte en fonction du nombre de comédiens, comédiennes là qu'on va être, qui est assez assez inédit. Et puis on a quelques créations. Alors Manu parlait de nos invités qui arrivent elles aussi avec des spectacles dans leur besace, et qui vont nous les faire découvrir la semaine prochaine. Et puis ouais, des créations spécifiques pour le festival, dont on a pour l'instant des idées, ça reste des idées plus ou moins floues.
C'est ça.
On sait ce qu'on veut en faire, et on espère que ça va ressembler à ce qu'on veut en faire. Il y a notamment une proposition de Manu qui s'appelle Déterrer les archives le samedi après-midi à 14h, qui permet de revisiter une découverte historique,
une invention,
voilà, à notre manière, qui sera proposée par le public. Et puis, et on a également Cousinade, qui est une proposition, alors d'Arnaud Nedelec, qui est mon collègue de La Belle Chute, voilà, où l'idée, c'est qu'on parte des fêtes de famille, et de comment rendre un peu théâtral une famille dont le public va participer à la création. Voilà, ça c'est ce qu'on a envie de faire, et on espère que ça va être chouette et que le public sera au rendez-vous.
Mais ça va être génial, ça va être incroyable, c'est inédit, c'est fou.
Ben voilà, ce sera le mot avant la première pause musicale. On continue évidemment à en parler avec vous deux du festival Sur le fil avec le jeu de mots FIL pour...
Ligérien. Festival d'improvisation ligérien. Mais peut-être que la saison prochaine, on ira à Alger, on ne sait pas.
Ouais. Eh ben, qui sait, pourquoi c'est pas. Sur une idée originale
mais
de Sidonie.
Mais avec grand plaisir, moi je prends.
Hein. On serait heureux en tout cas que Sidonie ait participé à cette idée. On fait une pause musicale et on revient ensemble juste après dans Topette sur le 101.5 FM. Il est 18h27 désormais, vous êtes à l'écoute de Topette.
Topette, avec Pierre Benoît, sur Radio G.
C'était à peine 2 secondes à la musique, j'ai repris l'antenne sur le fil. Ça tombe bien.
Allez, qu'il est drôle.
On en parle justement du festival sur le fil, le festival d'improvisation ligérien. C'est le week-end du 27 au 29 mars prochain au champ de bataille, co-organisé par la compagnie La Belle Chute et les Expressos. Et justement, nous avons Élise Verchère de La Belle Chute et Emmanuel Landais pour le nom complet des Expressos pour nous en parler. Alors justement, on a parlé d'improvisation, on a parlé un peu du festival, on va continuer à en parler bien évidemment. Je voulais vous poser la question parce que c'est ce que tu évoquais, Élise, Emmanuel aussi, c'est que tout n'est pas encore ficelé précisément, c'est de l'improvisation aussi dans l'organisation, dans le sens noble du terme, hein, ça veut pas dire mal fait, hein, bien au contraire. Mais la question que j'ai, c'est par rapport au public que vous escomptez attirer, est-ce que c'est un public qui sera déjà conquis par l'improvisation? Est-ce que c'est un public qui sera curieux? Comment on peut attiser l'attention quand on sait pas vraiment ce qu'on va venir voir et qu'on connaît peut-être pas la discipline?
C'est une vraie question, une vraie problématique qu'on a, nous, mais depuis pas mal d'années, de dire comment attirer un public qui n'est pas forcément sensible à la cause de l'improvisation, parce que l'impro, mine de rien, elle s'est énormément développée ces dernières années, alors sur Angers et ailleurs, mais du côté des troupes amateurs. Donc ça, c'est génial, parce que ça a permis une visibilité assez folle de l'improvisation théâtrale, mais avec des formats qui sont donc le match et le cabaret, où on imagine que l'impro, c'est essentiellement faire rire, parce que c'est comme ça qu'on le connaît, enfin qu'on connaît la discipline la plupart du temps. Ce qui fait qu'on a souvent des gens qui nous disent « Ah non, l'impro, j'aime pas. » Mais vous avez déjà vu ? Oh non, mais je vois ce que c'est. Et en fait, bah, c'est comme le théâtre. Ce serait comme de dire d'une pièce de théâtre parce qu'on en a vu une. Ah non, j'aime pas. Ben, il faut qu'on réussisse à faire aussi, voilà, de la com et à faire venir les gens dans les théâtres. Pour ça, d'ailleurs, nous on remercie Florent Goulette du Champ de Bataille qui a été, en tout cas, pour La Belle Chute, le premier à nous programmer dans son théâtre et à programmer de l'impro dans son théâtre. Et ça donne des idées à d'autres. Et donc, on espère aussi pouvoir toucher les publics, justement, de ces salles, de ces programmations théâtrales, pour leur dire, regardez, si c'est dans un théâtre, c'est que c'est du vrai théâtre. Venez.
Oui, puis c'est vrai que c'est le comme tu dis, le cabaret ou le match, c'est tous les formats courts. Donc, les improvisations flash. Ouais. Qui dure entre 30 secondes et 8 minutes en moyenne, alors que là, à part le dimanche après-midi, avec la parodie de match, on propose que du format long, donc des pièces de théâtre improvisées. Donc c'est une improvisation d'une heure et quart, donc c'est une pièce. Et effectivement, les gens qui n'ont pas l'habitude peuvent s'initier à l'improvisation par ça et modifier l'image qu'ils peuvent avoir, l'image cérébrale qu'ils peuvent avoir.
C'est peut-être ça aussi les enjeux de cette proposition en format festival, de marquer avec un temps fort dans l'année, un temps dédié à l'improvisation pour de nouveaux publics, pour faciliter, faire un petit peu moins peur peut-être, rassurer. Est-ce que vous avez d'autres ambitions avec ce festival sur la suite ou sur les résultats qu'il pourrait y avoir derrière?
Oui. Déjà qu'il soit pérenne, ce serait
c'est
chouette.
Ça. Non, oui, l'idée effectivement, c'est là, c'est une première édition, mais ce serait qu'on puisse faire une deuxième, une troisième, une quatrième, et etc. Pour l'instant, alors voilà, on est au champ de bataille, et je le dis parce qu'on en a parlé avec son directeur. Mais l'idée, ça pourrait être aussi à terme de trouver des lieux aussi un peu plus grands pour quand le public se précipitera devant la porte, dire oh mon Dieu non,
le
vous
grand
êtes
théâtre,
complet.
Par exemple.
Alors le Grand Théâtre, le Quai, bien sûr, qui nous écoutent et qui vont eux aussi se battre certainement pour nous accueillir. Non mais trêve de plaisanterie. Ouais, l'idée c'est que ça puisse se pérenniser, que ça devienne un événement fort qui permette à la fois aux gens de découvrir l'impro. Alors par le biais plutôt, comme disait Manu, de pièces de théâtre improvisées, mais ose aussi rentrer dans des bars ou dans d'autres salles de spectacle pour voir des matchs d'impro, des cabarets d'impro et se rendre compte que c'est pas juste des gens qui font des blagues en jogging, mais que c'est un peu plus complexe que ça. Et pour ça, on a aussi, d'ailleurs, on en a parlé très très vite tout à l'heure, mais le week-end qui précède, donc le week-end prochain, on a une offre de stage, d'initiation, en tout cas à des thématiques qui seront en lien avec nos propositions de spectacle. C'est ouvert, alors pas totalement aux novices, nous on demande que ce soit ouvert aux gens qui ont quand même une expérience de la scène, que ce soit en impro ou en théâtre traditionnel. Voilà, mais en tout cas, on sera ravis de les accueillir. Ça aura lieu au PAD, boulevard d'Avier, la pépinière artistique d'Avier.
Qu'on connaît peu d'ailleurs.
Et c'est le moment de leur lancer un petit appel aux compagnies du PAD. Venez à Radio G, ils sont sympas.
Bon, faut reprendre contact, ça avait déjà été envisagé, mais effectivement, oui, il y a une petite pépinière. Donc là, ça veut dire qu'il y a déjà aussi une deuxième structure qui est impliquée dans le festival.
Absolument, ils nous mettent à disposition les locaux. Mais en fait, voilà, il y a nos deux compagnies, mais il y a aussi plein de gens autour de nous qui nous aident, notamment pour cette première édition. Alors oui, avec le PAD, on a la compagnie Nathalie Béas et la compagnie Loba qui nous accompagnent en mettant à dispo le lieu, au théâtre du Champ de Bataille également. Et il faut qu'on le dise, la mairie d'Angers nous aide également, le département de Maine-et-Loire également, le Joker's Pub également. Voilà, le Crédit Agricole, on les cite parce que en vrai, pour une première édition, sans eux, ce serait compliqué.
Et Manu, justement, j'avais posé la question, il me semble, il y a deux semaines, sur les difficultés que ça pouvait être de se lancer dans la programmation d'un festival. Et je ne sais plus qui avait fait cette réponse, que c'est justement parce que c'était difficile que vous l'aviez envisagé comme ça, dans le contexte qu'on connaît en Pays de la Loire, avec cette régionalisation, ne serait-ce que dans le nom.
Oui,
Ligérien.
C'est ça. C'est Arnaud Nédélec, donc le collègue de la Belle Chute, qui avait eu cette idée-là du festival, en se disant c'est parce que c'est morose qu'il faut lutter contre. Donc il s'était dit, en venant nous voir avec Élise, ça vous tente pas, on lance ça, on ne sait pas encore comment on va le faire, on va d'abord aller voir les salles, on fera le budget après, tant pis, il faut qu'on fasse quelque chose, parce que tout est trop triste, rendons ça gai. Et puis finalement, ça aboutit. Donc, on a très bien fait. Nous, on est très heureux d'avoir écouté Arnaud et de se dire, ça y est, on a monté ce festival-là. Maintenant, il faut juste que le public réponde.
Alors, c'était un petit peu sur les autour du festival, les coulisses, la démarche, parce que c'est aussi très important pour comprendre. C'est ça qu'il y a derrière, en plus, entre guillemets, des simples représentations du divertissement. C'est qu'il y a une démarche artistique presque militante. Donc, je pense que c'est important de s'étendre là-dessus. Si on revient un petit peu plus sur l'improvisation, Mathieu. Toi, tu es amateur peut-être, soit à la pratique, soit initié, soit en tant que spectateur d'improvisation, ou l'image que tu peux en avoir?
Pas la pratique, même si c'est quelque chose qui m'intéresserait, mais faute de temps, je ne peux pas. Mais par contre, j'ai déjà vu plusieurs matchs d'impro, ouais, et même des pièces d'improvisation complètes. Donc c'est très intéressant, et c'est vraiment un boulot et une gymnastique intellectuelle qui est impressionnante, je trouve.
Ah, puisqu'on a les deux restaurateurs avec nous, si on devait faire le menu pour un petit menu de spectacle pour Mathieu, par rapport à son profil, Élise, est-ce qu'il y a un spectacle qui serait plus approprié ou pas?
Voilà, alors Mathieu, si tu n'as pas beaucoup de temps, mais tu peux peut-être avoir un week-end quand même, quitte à venir autant que ça vaille le coup. Moi, je te propose dès le vendredi soir, tu commences tout de suite avec Making Off, 19h. C'est plutôt une manière assez sympa de découvrir l'impro parce que l'idée c'est de voir les coulisses d'un film. Donc je me dis, pour les gens qui sont pas encore trop sûrs, on y va doucement. Ça te permet après de profiter du bar, de la petite restauration, parce que ça aussi, on va pas se mentir.
On a les arguments.
C'est quand même un bon moment et c'est sympa. Si jamais tu traînes, pas 21h, il y a un deuxième spectacle, mais est-ce que j'irai pas aussi voir leurs histoires? Et comme ça, t'as une vraie soirée complète. T'es pas venu pour rien. Donc ça, c'est mon premier conseil. Pour le samedi, c'est dur si tu manques de temps et qu'il faut choisir.
Écoute, le samedi, tu te dis, on est en week-end, j'ai quand même envie de quelque chose où je vais voir des choses énergiques, des gens qui se rencontrent. Et je pense que justement, Cousinade, à 19h, ça te prend ni l'après-midi ni la soirée.
Mais
c'est-à-dire
oui,
que tu sors
forte.
Après et tu as pu, dans l'après-midi, rester en famille. Et donc, et même emmener cette famille à 19h, voir des histoires de famille et te dire, oh mon Dieu, je ne suis pas si dysfonctionnelle que ça. Et le dimanche, justement, pour faire plaisir aux petits, oui. Et ben, tu viens à 11h parce que tu ne sais pas quoi faire avec ce petit qui est debout depuis 6h du mat. Et tu viens voir Retour en 7e, hein, sur l'école des années 60 pour dire à tes enfants, regarde, hein, t'as de la chance, on te tape plus sur les doigts, hein, c'est plus légal. Et voilà,
c'est pas mal. Hein, et le week-end aura été plutôt chouette.
Bah, bon appétit, j'ai envie de dire presque, Mathieu. Et c'est, ce qui est intéressant, c'est que Manu ne défend même pas son propre spectacle à 14h le samedi, déterrer les archives.
Tu veux que je le défende maintenant?
Non, mais c'est qu'il n'était pas dans la proposition. On en parle juste après.
C'est
si
parce que je ne pouvais pas défendre les 8 spectacles, puisqu'il y a aussi le 8e de carte blanche aux amateurs dont on parle ensuite, c'est ça?
Exactement. Bah oui, on va quand même un petit peu parler de la programmation, puis de vos compagnies aussi, de leur travail, de ce que ça représente pour vous de s'impliquer comme ça à deux sur ce temps fort. Mais puisque Mathieu avait le micro il y a quelques instants, on va lui laisser et maintenant on va passer. C'est lui qui improvise apparemment. C'est comme ça qu'il a annoncé la chronique de Let's Game ce soir dans Topette.
Oh yeah.
Let's Game, la chronique gaming de Topette avec Mathieu.
Alors je sais pas si tu le sais Pierre-Benoît, mais samedi c'est la journée mondiale de la poésie. Alors du coup je me suis un petit peu amusé quand même, puisque pour cette semaine autour de la poésie, j'ai décidé et donc choisi, sans que l'on me la pose, de vous faire un petit peu de prose. Je me suis donc mis à chercher la définition et l'étymologie du mot « jouer » afin de vous la rappeler en ces termes que j'ai trouvés. « Jouer » vient du latin « jocari » qui signifie « s'amuser, folâtrer, plaisanter ». Le jeu vidéo est donc du même acabit, suivant l'utilisation que l'on en fait. Car en effet, le problème n'est pas le support, mais la manière dont nous nous en servons. Il peut même s'apparenter à du sport, suivant notre vision. Pour aider leur progéniture à ne pas fusionner avec leurs ordinateurs, les parents veillent à l'aventure d'un œil inquiet, parfois moqueur. Les pouces du jeune deviennent des champions, plus rapides que l'éclair parfois, et quand on lui dit de ranger son habitation, là souvent, il n'entend pas. Mais quand la partie dure trop longtemps, que l'on oublie même le goûter, les parents surgissent soudainement avec ce fameux « va donc t'aérer ». Pourtant, le pire arrive le soir, un drame terrible et soudain. Plus d'internet dans le couloir. La box décide d'arrêter le jeu, enfin. Silence, panique, regard perdu. On entend presque un petit cri. Mais comment vivaient les individus avant le Wi-Fi ? Alors les parents répondent calmement, avec un sourire plein de malice. On sortait jouer dehors, tout simplement. Mais parfois eux aussi succombent au jeu. Juste une partie, disent-ils fièrement. Et 2 heures plus tard, c'est curieux, ils jouent encore, très sérieusement. Moralité ? Petits et grands peuvent jouer sans se fâcher, à condition, de temps en temps, de savoir débrancher.
Merci. merci beaucoup Mathieu. C'était pas si improvisé que ça finalement. C'était même très bien écrit avec cette poésie. Je sais pas si t'as compté, Sidonie, il y avait un, deux...
Alexandra, rime croisée en tout cas, c'était... Ouais, j'ai compté.
Voilà, attention, parce que Sidonie, c'est une poétesse dans l'âme. On l'a découvert avec le Slam Poésie Club tout récemment. On continue dans Topette et on revient à nos moutons.
Topette avec Pierre Benoît.
Je ne sais pas si Élise et Manu sont des gameuses. Peut-être que vous jouez aux jeux vidéo, toi, Élise ?
Un peu. Moi, j'ai une borne d'arcade, un truc de vieille à la maison. Donc, je joue, mais pas sur les consoles de jeux. Je joue sur la borne avec les manettes et tout.
Et une borne de l'époque ?
Ouais. Enfin, non, une elle a le look de l'époque, mais elle a été un peu remasterisée.
D'accord, intéressant. Ouais. Et toi, Manu ?
Ah, moi, je joue pas du tout. Par contre, je suis très fan de poésie.
Ah ok, bah c'était une chronique parfaite pour toi.
Voilà.
J'espère que tu as apprécié. On revient sur le festival Sur le fil, 27, 28 et 29 mars prochain, donc au TCB. Mais pas que, en fonction des ateliers, des stages, ça peut être aussi sur le pad. Et puis on a cité d'autres structures, je crois. Non, on a juste remercié les partenaires. Enfin, juste.
Ouais, on a remercié les partenaires, absolument. Et d'ailleurs, j'en profite parce que c'est aussi en cours d'organisation encore, mais on a un partenariat avec le Conservatoire aussi d'art dramatique angevin. Et on a des élèves qui vont venir animer aussi le lieu dans les avant-spectacles et nous proposer des scènes de leur répertoire ou des scènes qu'ils ont bossées. Et qui sont en lien avec les spectacles d'après. Donc, quand vous prenez votre place, il est possible que vous ayez une surprise si vous arrivez une demi-heure avant et paf.
Ça pimente l'existence, tout ça, hein, ces propositions là avec le festival Sur le fil. On a 8 propositions. Donc, tout à l'heure, si on revient sur les spectacles, tu disais, Manu, on va peut-être pas pouvoir prendre les 8 pour les développer, mais peut-être que tu peux parler de la tienne, Manu, quand même, sur les archives qu'on déterre, c'est ça, hein.
Oui, c'est ça. L'idée de base, c'était, tiens, prenons des événements et revisitons-les à notre sauce. Et je me suis rendu compte que les événements seraient peut-être un peu trop dramatiques s'ils étaient donnés par le public, parce que quand on pense événements, on pense souvent guerre, révolution et tout ça. Donc, je me suis axée finalement sur une découverte ou une invention du monde, hein. Et alors là, il y en a des listes et des listes, et c'est un peu plus gai. Et donc, allons voir comment on a découvert ceci ou cela, avant, pendant, après, les conséquences à la sauce, la belle chute, les expressos. On verra ce que ça donne, sachant que forcément, quand on va répéter un système, et dans ce système-là, il y aura tout le reste en improvisation. On a juste une matinée pour voir comment on peut mettre en place ce système-là. Donc, ça va être court, mais c'est bien, c'est le jeu.
Peut-être préciser que, pour le coup, c'est le public qui va décider de la découverte
ou de
en question ou de l'invention. On essaye à chaque fois, quand on est sur des spectacles improvisés, de faire participer le public, alors à la hauteur de ce qu'on peut lui demander, que tout le monde se rassure. On va pas demander aux gens de monter sur scène.
C'est ce que j'allais dire.
Non, c'est très
effrayant en tant que spectateur.
Ouais. Et puis vraiment, nous, c'est pas du tout l'idée, mais c'est que les gens puissent participer quand même en proposant, alors selon les spectacles, des thématiques, des caractéristiques de personnages, des souvenirs, des choses à voir. Et c'est aussi un moyen pour le public d'être encore plus avec nous, parce que c'est leurs idées qu'ils vont voir jouer sur scène.
Oui, par moment, pour eux, c'est un défi qu'ils nous lancent. Donc en lançant ce défi-là, ils se sentent impliqués, ils se disent, mon Dieu, mais comment font-ils s'en sortir? Et on s'en sort.
C'est presque du marketing, ça, hein, finalement, cette technique-là. Déterrer les archives. Sur la tonalité, du coup, j'ai l'impression que c'est pas si humoristique que ça, ou je me trompe? On est sur quel genre, si on...
Eh bien, de toute façon, il y aura de tout, mais on peut pas te le dire à l'avance. C'est-à-dire que si ça se trouve, déterrer les archives va être une grande tragédie. Mais vraiment, et on la jouera telle qu'elle, mais ça pourrait être une petite comédie légère, on n'en sait rien du tout pour l'instant. En fait, tout est possible. Ce qui est sûr, c'est que sur l'ensemble du festival, on voudrait qu'il y ait de tout ça, qu'il y ait de la tragédie, du drame, de l'émotion, de l'aventure, de la comédie, voire du boulevard, etc., etc. On voudrait qu'il puisse y avoir tout ça. Si jamais quelqu'un venait voir les 7 spectacles et le 8e amateur, qu'il puisse se dire, j'ai vu une variété de choses incroyables.
Oui, s'éloigner, comme disait Élise tout à l'heure, du stéréotype où l'improvisation, c'est juste comique, peut-être des fois burlesque, des fois... Voilà.
Ah mais oui, complètement. En plus, dans La Belle Chute et dans Les Expressos, on est 3 à sortir du Conservatoire d'Angers. On a vraiment étudié ça, on aime ça. D'où moi, mon origine de la poésie et même de la tragédie. Je suis une grande fan de Racine et de Corneille, c'est aussi issu de ça. Donc oui, on sait faire, on aime faire, donc on veut montrer tout ça, absolument. Ouais.
Est-ce qu'on parle, Élise, de vos histoires à vous ou pas?
On peut parler de nos histoires ou de leurs histoires.
Mais oui.
Ouais, c'est un spectacle qu'on a créé à la base qui s'appelle Une histoire, qu'on a créé avec La Belle Chute, avec Emmanuel Landais à la mise en scène. Voilà, la boucle est bouclée.
Oui, comme ça.
Elle est partout. et donc là, leurs histoires, ce sera une variation de ce spectacle. L'idée, c'est que on va voir deux couples alors qui se séparent. Dit comme ça, c'est pas très fun. Et le public va nous donner des caractéristiques des personnages, quelques souvenirs qu'ils ont vécus. Le principe, ça va être pour nous de montrer, de jouer une partie de leur histoire d'amour, qu'on comprenne aussi bien pourquoi ils ont été ensemble que pourquoi ils se sont séparés, avec un parti pris qui est de montrer les choses de manière assez subjective, comme dans n'importe quel couple ou relation où on peut se souvenir de choses de manière assez différente en se disant « Mais attends, c'est pas du tout comme ça que ta mère était quand on s'est rencontrés. » Mais bien sûr que si, ma mère était formidable. Mais non, ta mère était horrible.
Et ben, c'est un extrait du spectacle, ça, de toute façon.
Pas du tout, mais en tout cas, c'est des choses qu'on peut proposer, c'est-à-dire peut-être qu'on va rejouer les scènes à travers les points de vue des différents protagonistes, peut-être qu'on va les étirer, les caricaturer, les jouer de plein de manières différentes. L'idée étant que même si l'histoire de base est triste, on alterne, là on en parlait, on passe par plein d'émotions, c'est-à-dire autant de l'empathie et de la peine pour nos personnages que beaucoup de légèreté et de moments drôles où on s'amuse.
Et de la poésie. Mais je trouve ce spectacle très poétique.
Parce que tu l'as mis en scène, peut-être.
Alors c'est pas parce que je l'ai mis en scène, c'est parce que ça s'est trouvé comme ça au fil des répétitions, de se dire il peut y avoir des beaux moments, notamment grâce aux accessoires. Parce que sur scène, il y a beaucoup de draps et de valises et qui servent à créer des univers. Et ces univers-là, grâce aussi à l'improvisation, à la technique d'Angélique, ça donne des impressions très oniriques.
En tout cas, ça reflète bien cette idée que l'improvisation n'est pas que drôle, humoristique, que voilà, il y a aussi de la profondeur, même si l'humour peut être profond, mais de la profondeur dramatique, scénique et théâtralistique, dramaturgique, allez, tous les termes, je ne sais pas.
On met tout.
Est-ce que Sidonie ou même Mathieu avait des petites remarques, des petites questions à propos de ces propositions, est-ce que ça peut éveiller en vous, est-ce que ça contraste avec l'image que vous pouviez avoir, notamment toi, Sidonie, de l'impro?
Bah, j'avais déjà un peu vu d'impro, du coup je savais ce que c'était, mais j'avoue ça m'a donné envie parce qu'il y a une ouverture qui est différente face à juste un spectacle. Là oui,
elle glisse le flyer discretos
mais
vers
oui,
Sid.
C'est sûr. Et je pourrais emmener, bah, je sais, de la famille, ma petite sœur, je pense que ça pourrait lui plaire, donc ouais. Ça m'a plu.
Depuis qu'elle est impliquée dans l'émission, elle a son agenda sortie culturelle qui est très rempli, Sidonie. Elle est invitée sur tous les événements. Avant de parler de vos compagnies respectives, de les survoler pour quand même les présenter, est-ce qu'il y a autre chose à préciser, une autre histoire qui serait importante à mettre en avant ou dans la programmation?
La musique, je ne sais pas si c'est ça.
Oui, moi j'allais dire qu'on n'est pas les seuls, on parle beaucoup des comédiens sur scène. Manu l'a un peu évoqué, alors on va avoir à chaque spectacle un musicien avec nous, pas toujours le même, mais donc on a trois musiciens qui vont tourner pendant le week-end, qui eux aussi improvisent et participent à l'univers ou à l'ambiance dans laquelle les spectacles se produisent, enfin ils se passent, donc ils sont essentiels aussi dans la dramaturgie dont on parlait. Et on a une technicienne qui fait énormément, enfin surtout la régie lumière, qui improvise également à la lumière, même si elle connaît plus ou moins les spectacles, mais on n'a pas, comme dans plein d'autres spectacles, de conduite, où on lui dit « allez, à tel top, tu dois faire ça ». Elle improvise, et donc tout ça, c'est vraiment une équipe hyper complémentaire et qui nous aide aussi à proposer des spectacles dont on est fier. Et sur la programmation, si tu as parlé très brièvement de la carte blanche à nos collègues amateurs,
oui.
et peut-être qu'on peut en dire deux mots.
Oui, bien sûr. Donc la carte blanche aux amateurs, c'est le samedi après-midi à 16h. C'est les Flamants Bleus, la Lima et Des Lions dans ton salon, qui sont tout bêtement trois groupes amateurs à qui on donne des cours régulièrement. C'est pour ça qu'on les connaît bien et qu'on leur fait confiance. Eux se sont retrouvés entre eux, on n'a pas du tout mis notre grain de sel dedans, pour composer un nouveau spectacle. Eux aussi, ils se sont prêtés au jeu, c'est ça qui est chouette. Donc c'est quelque chose qu'ils n'ont jamais joué. Ils se sont mis autour d'une table, ils se sont dit qu'est-ce qu'on pourrait faire, et ils ont créé aussi un nouveau spectacle, donc un nouveau système, juste pour le samedi 28 à 16h,
qui s'appelle Le fil de l'histoire. Est-ce que c'est pas magnifique?
Ils sont mignons.
Le fil de l'histoire, oui, ça on l'a pas du coup sur le site internet. Ça n'existait
pas.
Ils l'ont trouvé ensuite. Bon, et ben voilà, c'est pour la programmation. Je pense que ça y est, maintenant, on a bien envie de profiter de ces trois jours d'improvisation intense à Angers qui se répéteront, on l'espère, dans le temps. Et ce sera un plaisir de vous accueillir de nouveau pour parler de la deuxième édition ou peut-être des éditions annexes et différentes. Si on parle juste Élise, peut-être de la compagnie La Belle Chute, pour la présenter quand même. Qu'est-ce que vous proposez, votre démarche, l'équipe?
Eh bien, La Belle Chute, nous, alors, à l'origine, on était deux comédiens à avoir participé à la création de la compagnie en 2019, donc ça commence à faire quelques années, et deux comédiens qui venons l'un et l'autre du milieu du social. Voilà, moi, je suis une ancienne éducatrice spécialisée reconvertie, mon collègue était psychomotricien, et de tout ça, ça et notre amour pour l'improvisation et pour le théâtre, est née La Belle Chute. On propose à la fois, c'est ce qu'on disait, des spectacles artistiques qui sont dans des programmations culturelles locales, que ce soit tout public ou jeune public. Et puis, on essaye d'utiliser l'impro à des fins, on va dire, sociales. Donc, on a toute une partie de nos spectacles qui sont des spectacles un peu à la demande. Les gens viennent nous voir, nous demandent si on peut écrire une trame d'un spectacle sur une thématique en particulier. En ce moment, on travaille beaucoup, par exemple, avec la maison des ados sur c'est quoi être parent d'adolescent. Mais ça peut être, voilà, sur plein de thématiques qui nous touchent particulièrement. Voilà. Et puis on donne des ateliers à côté, au Théâtre du Champ de Bataille notamment. C'est pour ça qu'on a un lien assez privilégié avec ce lieu et qu'on avait très envie de faire notre festival là-bas. Mais pas que, Manu parlait de différentes troupes qu'on accompagne. Voilà, et avec tout ça, on essaye de continuer tranquillement notre petit bonhomme de chemin, sachant qu'il y a des choses qui sont assez communes avec les expressos et avec ce que tu vas dire, et puis d'autres voilà, où on s'éloigne un peu. Mais en tout cas, tout ça est vachement complémentaire.
En tout cas, oui, ça promet, ça montre aussi encore une fois la démarche, l'identité qui peut constituer le festival. Manu, on va raccourcir un petit peu parce que, alors, je me suis fait un petit peu prendre par le temps. Je vous ai laissé beaucoup parler et puis on a parlé des expressos déjà la dernière fois. Oui. On a eu le temps de présenter avec Antoine.
Oui.
Oui, c'est ça. J'avais un doute sur le prénom. Ouais. Pour juste très rapidement, improvisation, match.
Alors pas match. Non, on fait comme La Belle Chute, c'est-à-dire du théâtre d'illustration, de la restitution, et on a un spectacle jeunesse en ce moment qui s'appelle Archimousse, qu'on commence à tourner en bibliothèque ou en école. Donc ça, c'est l'actualité. Voilà, et festival sur le fil, comme ça, je fais court.
Je disais match, mais en fait, c'est parce que je pensais aux Jokers, où vous allez souvent.
Et oui. Évidemment, tous les mois, mais t'as raison, merci, au Jokers Pub. Là, on est mercredi à 19h, donc c'est l'apéro impro, une fois par mois au Jokers Pub à 19h.
C'est ça, c'est pas du tout un match, j'ai pas les termes. Je réécouterai l'émission.
On reparlera encore pendant une heure.
On parlait de Jokari tout à l'heure, il est mauvais.
C'est ça, exactement. En tout cas, le festival sur le fil, 27, 28, 29 mars, les infos pratiques, la découverte de toute la programmation et puis des stages, s'il est encore possible pour les ateliers de s'inscrire. Élise ?
C'est encore possible de s'inscrire pour les stages, les ateliers. Vous retrouverez toutes les infos alors sur les réseaux sociaux de La Belle Chute et des Expressos. On retrouve également tout ça sous une grande dénomination qui est les printemps de l'impro sur les réseaux, et puis sur le site du Théâtre du Champ de Bataille, sur le site de La Belle Chute, sur le site des Expressos, on est partout.
De la ville d'Angers aussi.
Mais de la ville d'Angers certainement, oui. Voilà, on est partout.
Festival sur le fil Angers sur les moteurs de recherche, oui. Et vous trouvez très facilement. En tout cas, il n'y a pas de compte Instagram dédié.
Il y a un compte Instagram, les printemps de l'impro.
Qui signifie printemps de l'impro?
Qui signifie, oh là là, mais t'as encore 20 minutes ou pas? Le festival sur le fil, dont on vient de parler, et un autre festival, Festivalia, qui lui propose des stages d'improvisation de la part de professionnels, mais qui n'est pas organisé par nos compagnies, mais par une compagnie amie, voilà, que tu pourras recevoir, toi.
Et
aussi.
Je te propose de
15 jours après nous.
Ouais. Leur lancer l'invitation. Merci beaucoup, Élise et Manu.
Merci
d'être venus
dans Topette ce soir. Nous, on se retrouve demain à 18h10. Mathieu, on se retrouve dans deux semaines avec de la poésie, si tu veux. Pourquoi pas?
On verra.
Ou une borne d'arcade, comme ça, on pourra jouer juste après l'émission.
Oui, je reviens.
Et Sidonie, donc, nous, on se retrouve demain, 18h10. Prenez soin de vous. Topette.
Topette.
Et on se quitte avec Tonton Albert. Faut le préciser, quand même.
Ah, j'ai bien envie de parier que tu vas encore nous raconter un nouvel épisode de ton feuilleton « Albert contre les robots ». Je me trompe ?
Pas du tout, Sidonie. Tu as parfaitement raison. Le mois dernier, j'avais insisté sur le fait que, dans la plupart des organismes dont la mission consiste théoriquement à faciliter la vie des gens, on est prié de ne pas rire, désormais, l'on se retrouvait face à des robots. la situation est inévitable, ce qui fait que pour une demande qui ne rentre pas dans les cases prévues, eh bien, cela devient sacrément compliqué. Et l'on n'est alors pas loin du classique « dites-nous de ce dont vous avez besoin, nous allons vous expliquer comment vous en passer ».
Et à quoi faudrait-il que tu renonces, mon tonton ?
À ma carte vitale. Et comme les petits vieux dans mon genre en ont immanquablement besoin pour continuer de plomber la sécurité sociale, le défi est de taille. Heureusement, la place forte de l'assurance maladie est bien gardée, défendue par des robots qui feraient passer Cerbère, le molosse de la mythologie grecque qui gardait l'entrée des enfers, pour un insignifiant caniche. Autrefois, téléphoner à des gens importants relevait de la mission impossible. L'accès à ces personnages, n'ayant pas une poignée de secondes à vous consacrer, était jalousement protégé par des secrétaires qui filtraient les appels reçus au millimètre, sinon au micron. Aujourd'hui, ce sont les robots qui font ce boulot, et pas moyen de les amadouer avec le moindre bobard. Le robot demeure inflexible, quelles que soient vos manœuvres et votre degré d'obstination. Mais j'ai fini par trouver une parade.
Allons bon. Tonton a craqué le code des robots de l'assurance maladie. Dis-nous, comment tu as fait ? Ça peut rendre service à plein de gens.
À la demande générale exprimée ici même par notre ami Sidonie, je vous donne le truc. Lorsque vous en avez assez, soit que le robot vous raccroche au nez, soit que l'on vous réoriente vers le site internet qui n'est pas prévu pour répondre à vos doléances, tentez donc la phrase totalement hors sujet. Le résultat est garanti. Le robot mouline alors à vide. Il cherche et cherche encore ce qu'il va pouvoir répliquer. Et comme il ne trouve pas, avant de risquer la surchauffe, il vous mettra en relation avec un humain. En gros, le robot appelle un ami comme dans ces jeux télévisés totalement ineptes. Bref, vous avez enfin passé la première ligne de défense. Vous avez traversé les remparts, le donjon est en vue, avec à la clé, qui sait, peut-être la résolution de votre problème, pour peu que vous parveniez à parler le même langage que la personne située à l'autre bout du fil.
Mais tonton, quand tu parles de phrases totalement hors sujet, tu penses à quoi exactement ?
Ah, franchement, vous n'avez que l'embarras du choix. Vous pouvez tenter la liste de courses. Énumérer les saints du calendrier PTT, oui, celui avec les chats idiots qui roupillent dans un panier. Répéter sans vous lasser votre numéro de sécurité sociale. Voire essayer la poésie. Après tout, c'est le printemps des poètes. Moi, j'ai récité du Shakespeare, un extrait du monologue d'Hamlet. Mourir, dormir, peut-être rêver, oui, là est l'embarras. Mais quel rêve peut-il nous venir de ce sommeil de la mort quand nous sommes débarrassés de l'étreinte de cette vie ? Honnêtement, je pense que ça marche aussi avec du Baudelaire. Il me semble parfois que mon sang coule à flot, ainsi qu'une fontaine au rythmique sanglot. C'est sûr, à ce stade-là, il faut plutôt appeler les urgences du CHU que la sécu. Mais peu importe, ce qu'il faut, c'est déconcerter le robot. Évidemment, le dit robot va vous répondre qu'il ne comprend pas. Pas d'affolement. Dites simplement « je répète » et vous recommencez votre baratin. Si vous avez envie de faire des vocalises, essayez de fredonner une petite chanson. Brassens me paraît tout indiqué. En tout cas, avec Hamlet, ça a marché. Par contre, ce qui est vrai pour l'assurance maladie ne l'est peut-être pas chez votre assureur. À vous de trouver comment forcer la porte. La bonne nouvelle de cette bouteille aux trois quarts vide.
Une bonne nouvelle dans une chronique de Tonton Albert ? Voilà qui n'est vraiment pas banal.
Oui, bon, Sidonie, tu pouvais m'épargner ce type de sarcasme. Bon, franchement. Alors, je disais donc que je suis tout de même porteur d'une bonne nouvelle. Oui, sachez que le grand n'importe quoi en matière de services rendus au public n'est pas le monopole des robots. Lorsqu'il reste des humains, ces derniers ont parfois des comportements que pourrait leur envier le plus crétin des robots. Je pense notamment à cet employé chargé de valider les photographies destinées à figurer sur les cartes d'identité et autres passeports. Ce monsieur s'est illustré en refusant la photo d'une dame au motif que cette personne louchait sur la photo. Et que, tout de même, une photo d'identité, c'est du sérieux, scrogneugneux. On n'est pas là pour faire le pitre. Il n'est bien sûr pas venu une seule seconde à l'esprit de ce zélé monsieur que cette dame présentait un réel strabisme et que même avec la meilleure volonté du monde, elle ne parviendrait en aucun cas à corriger l'image de son regard. Il restait toujours la solution Photoshop. Mais dans ce cas, au premier contrôle d'identité, ce serait assurément parti en quenouille, sans qu'il soit même nécessaire de se confronter à ces abrutis de l'ICE. C'est la photographe ayant réalisé le cliché qui m'a rapporté l'anecdote. Il a d'ailleurs fallu le témoignage objectif, si je puis dire, de cette photographe ajoutée aux larmes de colère de la dame pour que ce censeur chevronné se rende compte de son manque de discernement et, accessoirement, de son évidente carence en humanité. Il serait bien sûr illusoire d'exiger une forme d'empathie de la part de ces gens qui nous reçoivent au cours de nos démarches administratives, mais un peu de considération, ce ne serait déjà pas si mal, à moins qu'il ne faille attendre que l'on incorpore cette fonction au programme de la prochaine génération de robots.